Le magazine littéraire Épilogue vous est présenté en collaboration avec la Librairie du Quartier. La Librairie du Quartier, au 1120 Avenue Cartier, au cœur de Québec.
Bonjour, bienvenue à Épilogue. Aujourd'hui, à l'émission, pardon, un livre aux accents exotiques, un roman tibétain en attendant la neige. Claudine Dufour nous parle de « On meurt tous d'avoir vécu » de Karim Wilder et on reçoit Patrick White pour son livre sur un peintre royal britannique qui a vécu à Québec. Il est méconnu, on en parle avec. Bonjour à tous et bienvenue à Épilogue, émission du dimanche 13 février 2022. Ça me fait réaliser, Brian Saint-Louis, qu'on n'a pas de spécial Saint-Valentin cette semaine, cette année.
Mon Dieu, on est donc bien plate.
Ben oui, on a donc bien passé en dessous de la table. Peut-être que c'est la pandémie on avait cette tradition à Épilogue là, d'arriver avec
de
nos romans d'amour.
Romans d'amour. Non, c'est tant que ça. Non, j'en lis pas tant de romans d'amour, moi. Non.
Ben, l'amour est présent dans à peu près tous les romans.
Dans tous les romans, c'est ça.
Voilà, on pourra dire ça comme ça. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans le travail qu'a fait Patrick White sur le peintre royal britannique Henry Daniel Tilke. Donc, qui a vécu au Québec. Il vient de consacrer une biographie, monographie, essai, donc, à ce peintre du 19e siècle. On va en parler. On va commencer l'émission avec Patrick White. Plus tard, on va rejoindre Claudine Dufour qui nous parle de « On meurt tous d'avoir vécu » de Karine Wilder. Et toi, Brian, je le disais en introduction, roman tibétain.
Oui, roman tibétain, c'est le deuxième dont je vous parle ici à l'émission, mine de rien. Peut-être un signe.
Un bon ratio.
Peut-être un signe que l'émission, ça fait plusieurs années qu'on l'a fait. et encore aux éditions Piquier, qui est cette maison d'édition que vous connaissez peut-être, si vous aimez découvrir des littératures asiatiques. Josiane, quand elle était ici il y a quelques semaines, nous parlait d'un roman japonais, c'était chez Piquier. Donc, ils font beaucoup de romans japonais, coréens, chinois. Et c'est ça, des plus petits pays aussi où qu'on n'a pas souvent la chance d'avoir des livres qui viennent de là, dont le Tibet. Il nous avait présenté Tempête Rouge il y a quelques années, qui était vraiment plus sur la prise de possession du Tibet par la Chine. Et là, un autre roman tibétain qui vient de paraître, En attendant la neige de Lacham Gyal. Donc, je vais vous parler de cet autre livre-là.
On verra s'il y a un contenu politique cette fois-ci aussi.
Ben, c'est ça. En plus, c'est parce que c'est les Jeux Olympiques. Ça a comme un peu teinté ma lecture, mais c'est les Olympiques à Beijing. On parle beaucoup des Ouïghours. Les Ouïghours, ben, c'est une des communautés ethniques de la Chine. Mais les Tibétains, on en parlait beaucoup plus.
Dans les années 90, il y a eu un grand mouvement Free Tibet.
Oui, et ça aussi, il y a de l'acculturation. Donc, il y a le livre, mais il y a beaucoup d'autres questions qu'on se pose en périphérie de ça. On peut pas s'en empêcher en lisant ce livre, donc tibétain. Voilà.
Voilà. Alors, merci. Donc, c'est parti pour cette émission. On revient tout de suite après cette pièce avec Patrick White en entrevue.
very rare. Les squeegees sont gelés en hiver. Winter for punks is very rough. Les squeegees sont gelés en hiver. Can't wear a toque or your mohawk's crushed just in black all the time. Bon ton, mauvais ton, oh dee, it's cold with spiky hair. Put on one red patch and then one black patch.
Les squeegees sont gelés en hiver.
Voilà, Bette et Wallet, enfin un succès souvenir de nous ramène donc dans cette scène musicale de Québec que Brian a choisi pour nous. Alors, Henry Daniel Tilke, peut-être que le nom ne vous dit rien. Si c'est le cas, ne vous en faites pas. Vous êtes plusieurs à ne pas connaître ce peintre du 19e siècle qui a vécu, qui est né à Londres en 1788, décédé à Chicago en 1874. Le journaliste Patrick White, qu'on connaît bon maintenant, professeur de journalisme à l'UQAM. Patrick White, c'est aussi l'agence Reuters, le Journal de Québec. Il a longtemps dirigé la Huffington Post Québec. Il a aussi sa page Patois. Donc, Patrick White, qu'on voit, qu'on attend peut-être davantage en politique, affaires publiques ou des essais sur la culture. Mais là, on est vraiment dans une démarche assez singulière, celle de nous rappeler ou en fait de nous révéler ce peintre méconnu, Henry Daniel Tilke, qui vient de consacrer un livre aux presses de l'Université Laval. Patrick White, bonjour.
Oui, salut Valérie. Puis ça... ce qui est intéressant, c'est qu'il a vécu à Québec pendant 22-23 ans.
Exact. Donc, cette venue à Québec, dont on... il y est resté 22 ans, ça n'a pas toujours été facile, faut le dire. Peut-être ça explique aussi un caractère méconnu. Moi, j'ai envie de commencer, Patrick White. Il faut dire qu'on se connaît hein, aussi par le journalisme. J'ignorais que tu travaillais là-dessus depuis plus d'une quinzaine d'années. J'ai envie qu'on commence par la genèse, parce que, bon, on a beaucoup parlé de, déjà des articles qui sont parus sur le livre. Oui. On évoque de voir de mémoire envers ce peintre, Tilk, mais aussi, je dirais, un double devoir de mémoire. Je sens beaucoup d'affection pour deux chercheurs, donc David Carrel et Annie Fraser, qui avaient commencé, qui avaient travaillé sur Tilk et qui sont à certains égards, je dirais, légué la suite de la recherche. Et j'ai l'impression que tu t'es investi de cette mission-là avec vraiment un caractère personnel, là.
Oui, totalement. Alors, David Carrel, c'est un grand professeur d'histoire de l'art à l'Université Laval, qui a même un doctorat. Il est originaire de Chicago. Il est décédé en 2007 et il faisait des recherches sur Tilk depuis le début des années 70. Alors, son but, c'était de faire un texte de 5-6 pages pour le Dictionnaire biographique du Canada, qui est affilié à l'Université Laval. Et donc, il a déposé en 79 une première mouture. Il a travaillé là-dessus pendant des dizaines d'années. Il y avait d'autres chercheurs en histoire de l'art qui s'intéressaient à ça. Et il y a une de ses étudiantes, Annie Fraser, qui en 97, partait pour l'Angleterre. Il lui a confié donc une partie des recherches, sachant que bon, Tilk est né à Buckingham Palace. Oui. C'était un peintre royal qui a été formé à la Royal Academy of Art à Londres. Études payées par le roi George III. Donc, c'est très particulier, des grandes études en peinture. Ses parents, qui étaient serviteurs du roi George III et de la reine Charlotte et de la famille royale, ils vivaient à Buckingham Palace. Donc, lui, pendant 25 ans, ses parents, pendant presque 50 ans. Donc, un contexte vraiment, vraiment exceptionnel, là. Alors, ces recherches-là se sont faites avec Annie Fraser et David Carrel, avant de décéder en 2007, m'a écrit au Journal de Québec pour me dire, écoute, je pourrais te donner ma boîte d'archives sur Tilk parce que je suis en phase terminale. Je vais décéder dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et à ce moment-là, moi, je connaissais déjà Tilk depuis 97 avec l'article de Carrel qui n'était pas encore en ligne, mais qui était dans les archives, dans les musées. Donc, je savais ce qui se passait dans les recherches d'Annie. Et Carrel, donc, m'a donné sa boîte d'archives sur Henri Daniel Tilk. Et là, vraiment, à partir de ce moment-là, ça a été le devoir de mémoire envers lui, envers les recherches d'Annie. Oui. Et évidemment, envers un peintre qui mérite d'être connu, Henri Daniel Tilk, 81 œuvres retrouvées, plein d'œuvres qui dorment dans les musées à Québec, à Montréal, à Toronto, à Ottawa, puis je te parle pas de tout ce qu'il y a dans les collections royales à Londres, au Château Windsor et ailleurs au British Museum. Oui. Donc, 81 peintures, des portraits, des miniatures, des gravures, des meubles. Et il a vraiment fait le portrait aussi des gens les plus importants autour de la famille royale à Londres, incluant les rois, les reines, les princes, les archevêques anglicans de l'époque. Et à Québec, vraiment, la haute gomme. Parce que Louis-Joseph Papineau lui a même confié pendant 5 ans un atelier de peinture gratuitement au Parlement de Québec.
C'est extrêmement intéressant parce qu'il a voyagé, il s'est promené. C'est ce qu'on voit qui est extrêmement bien documenté donc dans ce livre, La vie d'un peintre royal méconnu, préfacé de John Porter. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné. Comment, en fait, son arrivée à Québec, son lien avec Québec, donc il s'y établit, il arrive en 1832, il est même qualifié d'un intrus un peu dans le marché de l'art. Il y a à l'époque Joseph Légaré, très présent, Antoine Plamondon, avec qui il aura une rivalité, je pense qu'on peut parler de ça, en tout cas il n'est pas toujours très bien accueilli.
C'est un euphémisme ce que tu racontes.
Hein?
C'est un euphémisme.
On peut dire que ça a brassé. On parle presque d'une guerre. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené à Québec? C'est pas 100%.
Alors, lui, il arrive d'Écosse, où il s'est marié en 1820. Il a quitté donc Buckingham Palace. Il a eu un enfant. Il a eu une carrière plutôt ordinaire à Édimbourg durant les 11 ans. On pense qu'il aurait été 11 ans. Il manque quand même beaucoup de documentation. Ouais. Mais quand même, en Écosse, il a connu des gens importants. Il a travaillé à la ville d'Édimbourg, au douanes en particulier. On pense que à ce moment-là, comme il a frappé un mur au plan professionnel, que l'Amérique du Nord britannique semblait est un choix intéressant pour lui. La ville de Québec, qui avait le deuxième plus grand port d'Amérique du Nord, une vie artistique extrêmement développée. Et c'était la capitale du Canada, la capitale du Bas-Canada et la capitale de l'Amérique du Nord britannique. Donc, une ville très importante à l'époque. Et c'est ce que je raconte aussi dans le livre.
Oui. Bon, une œuvre marquante de son passage à Québec. Il en est question. C'est extrêmement intéressant parce qu'on peut la voir sous plein d'angles. Puis je trouve que cette œuvre, à elle seule, vient un peu révéler à la fois l'époque, le regard d'aujourd'hui aussi. Ça s'appelle... Donc, un chef, présentation d'un chef nouvellement élu au conseil de la tribu Huron de Lorette, œuvre de 1841, qui est à la couverture d'ailleurs du livre. On parle d'une œuvre marquante. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial?
Ben, premièrement, elle s'est vendue à 100 000 copies en lithographie à l'époque. Imagine avec l'Internet aujourd'hui, il serait peut-être 10 millions de copies. Ouais. Donc, 100 000 exemplaires en lithographie, c'est un portrait d'époque du chef honoraire Huron. Donc, c'est pas le vrai chef, évidemment. Là, c'est Robert Symes qui était chef de la police de la ville de Québec, qui en venait très, très large à l'époque, qui était très anti-canadien-français, qui a été nommé chef honoraire au village Huron de Wendake en 1838. Donc, 2 ans plus tard, il se fait commander la peinture. M. Tilk se fait commander ça par Robert Symes. Et évidemment, beaucoup de controverses autour de ça, mais des très belles couleurs. On voit l'appropriation culturelle dans le contexte d'aujourd'hui avec les chapeaux haute forme, avec la ceinture fléchée canadienne-française. Mais quand même, on voit l'importance de la relation entre les Canadiens-Français et les Hurons, entre les anglophones et les Hurons. Les anglophones qui étaient vraiment l'élite locale à Québec à l'époque. Faut rappeler que c'était vraiment une ville quasiment à majorité anglophone là, à cette époque-là. Donc, Tilk s'est fait commander beaucoup de peintures à ce moment-là par les chefs Hurons, évidemment, qui sont bien représentés sur la peinture. Il a également fait des portraits de l'élite de l'époque, le maire Morin, qui est le Morin Center sur la rue Saint-Stanislas à Québec, c'est lui. Les chirurgiens importants à l'Hôtel-Dieu de Québec, il y a des peintures de tous les grands lords de l'époque, Lord Dalhousie, Lord Gosford, la rue Gosford dans le Vieux-Montréal, c'est lui. Et évidemment, l'élite de l'époque, très importante, évidemment, donc beaucoup de politiciens, le maire de Joliette, Tarieux de la Naudière, évidemment. La production à Québec durant ces 22 années-là, c'est pas loin d'une vingtaine de peintures. Donc, ça a été des années prolifiques, mais une guerre épouvantable avec Antoine Plamondon, qui était le plus grand peintre canadien-français à l'époque.
Il lui reproche plein de choses sur le plan plastique, sur le plan du... Je sais pas, c'est comme s'il le voyait comme un peintre de seconde zone. Il le méprise, pratiquement.
Ben oui, t'es un voleur de job, t'es un Anglais, t'es pas catholique, tu parles pas français. Donc, t'es un étranger. Ça, c'est vraiment... Il faut le voir de ce point de vue-là. Il y avait vraiment un point de vue xénophobe. Plamondon était en guerre contre tous ses concurrents, incluant un autre peintre connu à l'époque, Bowman, et bien d'autres. Là. Donc, à quelque part, c'était personnel, mais en même temps, Plamondon, à un moment donné, il a été appelé à Paris pour faire, évidemment, des belles œuvres. Il a disparu pendant plusieurs années. Donc, après 1838... Ça s'est calmé, mais cette guerre-là s'est faite dans les journaux de Québec. Il y avait 6 quotidiens à Québec à l'époque. Je ne sais pas si tu pourrais imaginer ça.
on travaille fort pour en garder 2, alors on imagine effectivement.
Une énorme effervescence artistique, commerciale, intellectuelle. Ouais. Donc, il s'est fait traiter d'amateur par Plamondon, certaines peintures religieuses. Donc, lui, c'était vraiment ses peintures religieuses qui plaisaient pas à Plamondon, malgré le fait que c'était apprécié globalement par les spécialistes de l'époque. Donc, Plamondon a mis fin à la carrière de peintre religieux de Tilk, qui s'est spécialisé par la suite dans les portraits. Lui, sa force, c'était l'art britannique du portrait. Mm-hmm. C'est ce qui l'a amené au Canada, au Bas-Canada et au Haut-Canada. Puis par la suite, il est allé à New York, puis à Chicago, mais il a vraiment amené l'art du portrait. Il a fait des très, très beaux portraits qui sont encore accessibles aujourd'hui dans un grand nombre de musées. Il y a des œuvres à Québec, au musée des Sœurs Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. La lithographie Huron, elle est au Musée national des Beaux-Arts du Québec et au village Huron de Wendake et au Musée de l'Amérique francophone, qui fait partie du Musée de la civilisation. Il y a également au moins 2 peintures de lui. Donc, ça nous montre quand même qu'il y a moyen de... de voir ces œuvres-là. Et on a découvert, ma chère, 3 œuvres de Tilke depuis l'apparition du livre il y a 3-4 semaines.
Donc déjà, parce qu'il y a, il faut dire que le livre est, oui, une biographie, un portrait de l'époque aussi, je le disais, la vie littéraire anglophone de Québec aussi. Et c'est une monographie. La majorité des œuvres, quoi, 78 sont documentées, répertoriées. Donc là,
on pense que 80% de ces œuvres-là, en fait, on sait où elles sont. Ça, c'est génial.
Oui.
Au fil des ans, moi ayant publié du contenu sur mon blog dans les années 2000, fin des années 2000. Alors, le grand point tournant, ça a été évidemment la famille du peintre qui m'a contacté en 2008.
Et ça, il y a l'aventure humaine à travers ça. Des gens qui
voient
que...
sont débarqués à Québec une semaine plus tard avec les peintures, les photos, l'arbre généalogique, les photos en couleur, en noir et blanc, l'autoportrait de Tilke qui était dans le Journal de Québec hier, avec l'autoportrait de sa femme, le portrait de son père fait en Écosse en 1826, également une gravure classique gréco-romaine de la Royal Academy of Arts qu'il avait fait au début quand George III payait ses études à Londres. Donc on voit quand même là qu'il y avait un moment d'émotion incroyable. Alors Daniel Drouin nous a reçus au Musée national des beaux-arts du Québec sur les plaines d'Abraham, on a évalué les œuvres, on les a pris en photo, tout ça a été analysé. Et là, à partir de ce moment-là, il y a une autre branche de la famille au Vermont, la famille du peintre qui m'a contacté. Et là, après ça, tout ce qui a déboulé, c'est les spécialistes de l'histoire de l'art en Nouvelle-Zélande, à l'Université McGill aux États-Unis, et des gens qui ont découvert des peintures de Tilke dans leur sous-sol, chez un oncle, un voisin. Et là, évidemment, au fil du temps, on a vraiment abouti à un livre de 160 pages, avec des dizaines de photos, plutôt que les 6 pages qu'avait David Carrel en tête en 1997. Là.
On peut dire que tu as bien pris la mission qui a été confiée. Je reviens un peu à la démarche du journaliste. Tu as un travail, maintenant professeur, mais beaucoup, on est dans la rapidité, dans le quotidien, dans l'actualité. Un travail de longue haleine comme ça, on voit le livre se termine aussi, et ça, j'ai beaucoup apprécié. J'y sens une grande humilité aussi dans la démarche de dire, voici les questions en suspens. Il reste plein de choses à savoir. On ne sait pas tout. Ce livre ne prétend pas répondre à tout. Quelle place dans ta vie pour les prochaines années, Patrick White? Ce livre, il va éventuellement, ça va se poursuivre. Il y a des réponses qui vont arriver. Là. Est-ce que Tilke va t'accompagner toute ta vie?
On a retrouvé 2 peintures à Québec dans les dernières semaines. Une peinture religieuse qu'on pensait perdue et une autre de 1843 d'une femme noble à l'époque. Donc tout ça, c'est vraiment exceptionnel. On a retrouvé une autre peinture à la Royal Academy of Arts à Londres. Donc on va découvrir d'autres œuvres de lui dans les prochaines semaines, les prochaines années. Je vise vraiment, je travaille beaucoup sur l'idée d'avoir un éditeur en anglais. Je pense que ce livre-là va avoir une plus grande vie en anglais pour rejoindre les 3 marchés où il a vécu. Le Royaume-Uni, qui inclut l'Écosse évidemment, les États-Unis, 20 ans à Chicago, où il aurait fréquenté, entre autres, croisé, en tout cas, Cornelius Krieghoff, qui là aussi, on pense, connu à Québec, donc important, et le Canada anglais, il était là quand même pendant 22-23 ans. Donc après ça, mon autre but, j'ai été approché pour un documentaire sur le peintre, et le but ultime, je dirais, une exposition itinérante d'ici 5 ans, avec le MNBAQ et d'autres musées qui ont des œuvres, le musée McCord à Montréal, le musée des Beaux-Arts de Montréal, le musée du Château Ramsay, où on peut voir la peinture Huron de 1840, qui est fascinante, et le musée royal de l'Ontario à Toronto, le musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa, les archives nationales du Québec et du Canada. Et là, si on rajoute les œuvres qui sont en Angleterre, on pourrait vraiment récupérer, selon moi, 40-45 œuvres pour une expo, peut-être dans 5 ans, parce que c'est du long terme, il y a les droits, il y a le voyage des œuvres, mais j'y crois vraiment. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que de réparer cette injustice-là de quelqu'un qui méritait d'être connu, qui était totalement passé entre les craques de l'histoire et que le public puisse s'approprier son propre patrimoine.
Absolument.
C'est un des plus grands peintres canadiens, pas canadiens français, mais qui a vécu au Canada au 19e siècle, comme tu l'as dit, avec Antoine Plamondon, avec Joseph Légaré, Thomas Amiot et bien d'autres. Donc, à quelque part, aussi, ne pas oublier que Tilke était membre à part entière de la Société littéraire et historique de Québec, qui existe encore aujourd'hui.
Absolument.
Qui s'appelle le Morin Center. Et je crois même que le nom de la Société littéraire existe encore à l'intérieur du Morin Center. Donc, lui, il était dans les premiers membres avec Lord Dalhousie. Et aussi, ben, l'importance au plan historique de Tilk d'avoir eu un studio de peinture donné par Louis-Joseph Papineau de 1833 à 1857, donc pendant 5 ans, au Parlement de Québec, qui s'appelait la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. Ça montre à quel point son titre royal lui a ouvert bien des portes là, à cette époque-là.
Wow. Alors, ça nous en dit beaucoup. Il y a un travail, on le disait, on reprend l'expression du devoir de mémoire pour ce peintre, pour la vie littéraire artistique anglophone aussi de Québec à cette époque-là. Et ce travail, donc, cette suite des chercheurs David Carrel et Annie Sanson. Très beau travail, Patrick White. On sent vraiment l'engagement personnel et j'ai beaucoup aimé le ton du livre. Je tiens à le préciser. Sentir la présence de l'auteur comme ça, avec ses doutes, avec sa démarche, et même d'avouer une procrastination qui fait qu'aujourd'hui, il est paru, ce livre, après toutes ces années.
Oui, tout à fait. Donc, la COVID-19 a été l'élément déclencheur pour l'écriture qui s'est faite en 3 semaines et s'est publiée aux presses de l'Université Laval.
Absolument. La vie d'un peintre royal britannique, Henri Daniel Tilk, préface de John R. Porter, donc Patrick White. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci Valérie,
merci.
À bientôt.
Merci.
Sérieux, quand on a 17 ans, on n'est pas tellement plus heureux avec nos cheveux blancs, nos miroirs pleins d'impact distribuent des claques. Encore trop tôt, déjà trop tard pour vider son sac. Le cœur attend son heure d'incandescence. Mais vivre pour ce qu'il reste de jolies promesses, vivre pour quelques perles au-dedans. Mais vivre pour ce qui reste, nos tendres richesses, vivre pour quelques êtres importants. 20 ans, ça dure un jour. 20 ans, c'est pas lourd, ça voit pas que la marée qui monte nous couvre de honte. Des hommes et des déserts, des rivières de larmes, encore trop tôt, déjà trop tard pour rendre les armes. Le cœur attend son heure de délivrance. Pour quelques perles au-dedans, mais vivre pour ce qui reste, nos tendres richesses, vivre pour quelques êtres importants. Pour s'envoler jusqu'aux étoiles, pour se faire la belle. Le cœur attend son heure de caravelle. Mais vivre pour ce qu'il reste de jolies promesses, vivre pour quelques perles. Pour quelques êtres importants, mais vivre parce qu'il y a demain qui fait son malin avec sa réserve de printemps, mais vivre.
On meurt tous d'avoir vécu. Voilà là un constat implacable. Ça risque de tous nous arriver, effectivement. Et, Claudine Dufour s'est intéressée au livre de Karine Wilder aux éditions Stanquet qui porte ce titre et qui nous amène dans le fabuleux monde de la nécrologie. Bonjour, Claudine.
Bonjour, Valérie.
Alors, ce livre, effectivement, un thème qui me semble, en tout cas, de prime abord, qui peut être un peu triste, mais qui semble abordé ici de façon très originale.
Oui, très originale et malgré tout très légère. C'est ça qui est très, très drôle dans ce livre-là. C'est que c'est raconté d'une façon tellement humoristique, oui, mais à la fois, il y a un côté où l'auteur, pas l'auteur, mais le narrateur, qui a sa petite vie ordinaire, nous présente ça comme si lui, c'était son quotidien, c'était tout à fait normal pour lui. La mort y est présentée dans toute son absurdité, surtout. Donc, ce qu'on explore beaucoup, c'est ces morts un peu insolites. Donc, un des sujets d'inspiration du livre, ça a été pour l'auteur les Darwin Awards.
Oui, donc, ça, c'est...
Ce prix qui est remis aux morts les plus insolites. Ou encore aux gens qui s'auto-stérilisent de manière...
Darwin, d'ailleurs, le titre de ce prix vient un peu de cette disgrâce, finalement, vient un peu d'idée que selon la théorie de l'évolution de Darwin, ces gens-là n'auraient pas véritablement survécu les meilleurs gènes et les meilleurs jugements pour survivre sur la Terre.
Exactement, ça l'explique dans le livre. Donc, on rencontre Lucky Crapaud, qui, lui, est rédacteur de nécrologie et de viande froide dans une agence de presse de New York. Donc, les viandes froides qui sont ces textes écrits à l'avance en prévision de la mort de gens connus. Et donc, lui est un petit peu en charge de son petit département dans l'agence de presse. Il fait ça depuis plusieurs années. Il a une petite vie tranquille, rangée. Mais c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la mort. Là. Il a 3 mémoires de maîtrise là, sur des sujets reliés là, quand même à la mort. Et elle nous parsème beaucoup, l'auteur aussi, le récit de différentes anecdotes sur la mort de différentes personnes connues ou moins connues. On comprend qu'elle s'est beaucoup intéressée là, aussi à ce sujet-là des morts insolites, qu'il y a beaucoup de recherches derrière ce livre-là, parce qu'elle dit en quatrième de couverture qu'en même temps, presque tout est vrai, même si l'histoire est déjantée. Là. Donc, beaucoup de réel, donc ce personnage-là, fictif, mais qui évolue dans un monde là, qui est vraiment contemporain. Donc, on rencontre en 2009, alors que Michael Jackson vient de mourir. On va le suivre jusqu'en 2014-2015. Donc, on va voir passer au fil des pages. Là. Ça fait mémorer certains décès de gens connus. Là. Donc, on peut se rattacher à ça. Mais en même temps, c'est tellement d'une absurdité, puis elle a une plume, elle manie le jeu de mots à Karine Wilder avec vraiment là une adresse assez particulière là, d'utiliser plusieurs sens du même mot, d'avoir recours au champ lexical, mais vraiment en jouant sur le sens des mots. J'ai vraiment, vraiment adoré cette plume-là, surtout que le fait que le narrateur soit new-yorkais, il fait jamais allusion au fait que ses jeux de mots sont en français, alors que lui, son quotidien est forcément en anglais.
Oui, oui.
C'est dit comme si lui, il racontait ça de façon tout à fait naturelle en français, même s'il évolue à New York. C'est ça, j'ai trouvé ça en partant très, très, très rafraîchissant. Dans le fond, Lucky Crapaud, à un moment donné, sa vie paisible va être un petit peu perturbée. On s'en doute, hein, ça va nous prendre un élément perturbateur dans ce livre-là. Donc, il va se faire mettre en congé forcé. Puis, pendant son congé, il va découvrir un don particulier qu'il a et qu'il ignorait. Et va s'en suivre la mort de certaines personnes. Donc, il va avoir un certain... Il va se rendre compte qu'il peut avoir un impact sur la mort des gens. Je veux pas trop en divulguer parce que ça fait quand même partie là, du cœur du roman. Puis je vois que les autres critiques n'ont pas beaucoup...
Ouais, on va garder le...
Non plus. Donc, je veux vraiment pas divulgâcher. C'est ça qui me rend un peu la tâche du matin.
Mais je pense que ça en dit déjà beaucoup. On sent vraiment une voix. Est-ce que Karine Wilder, est-ce qu'elle a publié beaucoup avant?
C'est un premier roman.
Elle a été
rédactrice en chef de différents magazines, dit-on, en quatrième de couverture, sans les nommer. Et puis, elle est chroniqueuse littéraire, roman étranger pour le Journal de Montréal depuis 2011. Donc, c'est ce qu'on connaît de son parcours, mais je suis certaine qu'on va en réentendre parler parce qu'elle a vraiment une voix. C'est vraiment un roman qui fait du bien. Est-ce que c'est de l'humour noir ou pas de l'humour noir? Je me suis vraiment posé la question parce que je pense que le côté absurde fait qu'à un moment donné, ça dépasse l'humour noir. Il faut pas nécessairement s'intéresser de façon macabre à la mort pour embarquer dans son univers parce que c'est tellement évident que ça se peut pas, mais en même temps, on a le goût d'y être pendant les quelques heures de lecture.
Mais en tout cas, il faut dire, Claudine, que la mort, malgré, comme on disait en début d'entrevue, son caractère macabre est quand même fascinante. Et d'ailleurs, elle disait en entrevue au Soleil, Karine Wilder, « La mort en tant que telle ne me plaît pas, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui m'intéresse. Les films d'horreur pour leur petit côté cheap, mais aussi les superstitions, le folklore, les craintes et les peurs associées. » Donc, on a l'impression que c'est un peu ce qu'elle traduit à travers ce livre.
Oui, c'est ça. Puis l'espèce de caractère fatidique d'un moment donné, quand t'es dû, là.
Oui, oui, c'est, comme on dit, ton heure est venue.
Ton heure est venue, oui, c'est ça. Et on va voir que l'heure va être venue de différentes façons très, très bien scénarisées.
Eh bien, ça donne très envie de le lire, ce premier roman de Karine Wilder aux éditions Stanky.
Oui, c'est certain que je vais le faire circuler dans l'équipe pour que tout le monde puisse en profiter puis surveiller ce nom-là, Karine Wilder, c'est chez Stanky.
Alors voilà, merci beaucoup. On meurt tous, pardon, d'avoir vécu. Claudine Dufour nous en parlait. Merci, Claudine.
Merci.
Merci.
J'ai l'air absente de ça, de me tourmente de guerre, puisque je m'en fiche. Sainte Providence a toujours de l'avance alors. Chercher à fuir. Aujourd'hui est en sorte un beau jour pour mourir. L'air d'une idiote, pourtant je ne suis pas sotte, mais j'aime à vous décevoir. Escalier mécanique, un père et lunettes noires sont
Voilà, c'est ce qui nous amène. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Brian Selou?
Nous venons d'écouter Coralie Clément, une belle journée pour mourir.
Ah, voilà, donc en lien avec On meurt tous d'avoir vécu, dont nous parlait Claudine Dufour.
Ah oui, puis je tiens à mentionner, je suis quand même fier de mon lien d'avant, là, c'était Diane Dufresne, mais vivre. Tu parlais d'un peintre avant, Diane Dufresne.
Ah!
Peint avant de mourir, faut vivre. Hey, vous me dire la recherche qu'il y a derrière.
Il y a une logique implacable dans la réalisation et le choix musical de cette émission assurée par Brian.
Pas toujours, mais quand il y en a, là, quelque chose de solide.
C'est voilà. Bon. Alors, donc, oui, ben d'ailleurs, Brian, le même Brian, donc, il nous amène vers la fin de cette émission avec un roman tibétain et je te laisse le soin de nommer l'auteur.
Ah, c'est gentil, c'est trop de Lacham Gyal, probablement, paru chez les éditions Piquier, dont je vous parlais un petit peu en introduction d'émission, une maison d'édition spécialisée dans les romans asiatiques. Donc, beaucoup de romans japonais, coréens, mais aussi chinois, vietnamiens, vraiment, des plus petits pays dont on entend peu parler de la littérature japonaise, on en a quand même un peu. Mais des plus petites, des plus petits pays qu'on traduit moins, qu'on découvre moins. Donc, c'est toujours des lectures exotiques, intéressantes, qui ont vraiment un beau catalogue. Et entre autres, ils ont publié cette année un nouveau roman tibétain, donc celui de Lacham Gyal dont je vous parle, En attendant la neige. C'est leur, à ma connaissance, c'est leur deuxième roman tibétain. Peut-être qu'ils en ont d'autres, là, mais c'est le deuxième, en tout cas moi, que je lis. Ils avaient publié l'an de, en 2019 ou 2020, Tempête rouge de Tsering Dondrop. C'était un roman que j'avais trouvé intéressant, Tempête rouge, parce que ça m'avait fait comprendre à quel point on sait peu de choses, finalement, sur le Tibet.
C'est vrai.
Pourtant, on a entendu parler beaucoup du Tibet, les années 80, les années 90, les shows pour libérer
le Tibet. Il y avait un caractère très... C'était une cause, je dirais, populaire à une époque. On se rappelle notamment des Beastie Boys qui étaient très impliqués.
C'est ça,
dedans,
le Dalai Lama.
Oui, il y a eu des shows rock pour le Free Tibet, là, début des années 90. Est-ce que la... On a peut-être tourné les yeux finalement vers un autre enjeu ou la situation s'était stabilisée?
Ben, la situation a évolué pour une chose. Donc, c'est ça. Le Tibet, donc, qui a été annexé par la Chine en 1949, en 1950. Et c'est un pays, mais c'est ça qu'on idéalise beaucoup, je dirais, qu'on connaît peu et le peu qu'on connaît, on l'idéalise un peu en disant ah, les Tibétains. Oui. Beaucoup chez les gens de gauche là, qui sont dans la recherche de soi, le bouddhisme. Mais tout le monde il est beau, tout le monde il est fin. On idéalise un peu la société. Dans Tempête rouge de Tsering Dondrop, ce que j'avais aimé, c'était un peu ce rappel de ce qu'était le Tibet à ce moment-là. Mm-hmm. Une société moyenâgeuse en 1950 où la moitié des gens sont des religieux, des moines, une société peu productive, vraiment pauvre, qui se développe pas parce qu'il y a beaucoup de gens dans la religion, donc qui sont guidés par des moines qui ont pas nécessairement d'éducation, qui se font dire qu'ils sont des réincarnations de tel... Et là, il y a les gens qui y croient vraiment, il y a ceux qui font semblant d'y croire, il y avait... Donc, on voyait que c'est une société qui fonctionnait, oui, mais qui était désorganisée, là, qui était plus au diapason du reste du monde, finalement. Donc, c'est la raison un peu pour laquelle c'était dur pour le Tibet de résister à la Chine, parce que ils n'étaient plus capables de d'évoluer de la même façon que le reste des nations du monde, finalement, tellement ils étaient en retard sur vraiment tout. Mm-hmm. Ils vivaient comme il y avait plusieurs siècles. Donc, c'est un peu ce rappel-là de... le roman de Tsering Dondrop, donc, lui, a été distribué sous le couvert en Chine, au Tibet. Donc, c'est un roman un peu donc mis à l'index parce que ça disait des vraies choses, mais en même temps, c'était pas que critique de la Chine, c'est aussi critique de la société tibétaine. Donc, ça avait été un roman très intéressant. Donc, je me suis dit, je vais lire le nouveau roman donc publié aux éditions Piquier En attendant la neige. Je me disais, ça va être intéressant. C'est très différent, par contre. Et lui, et c'est ça que je voulais mentionner au début. On est quand même... On peut pas s'empêcher de lire un roman tibétain sans essayer de le placer dans un certain contexte politique. Ouais. Parce que...
Mais surtout que le même auteur, comme tu viens de nous dire, a mis la table là, dans un...
Ben c'est ça. Non, c'est un autre auteur.
C'est un autre auteur. Voilà. C'est un autre livre.
Et donc, ce nouvel auteur, pour le deuxième livre, En attendant la neige, La Chanjia, lui, a fait des études. Il travaille maintenant à Pékin, au Centre de recherche sur les études tibétaines de Pékin. C'est son premier roman. On sent que c'est un auteur qui... s'intéresse beaucoup à ses origines et donc cherche à les faire rayonner. Mais c'est un Tibétain à Pékin, donc il est d'un côté, il a un peu le sceau d'approbation de Pékin, donc
oui,
de la
exact.
Chine communiste. Donc on se dit, bon, si son roman a été publié, distribué, il dit les bonnes choses. Donc on peut pas s'empêcher de se demander le contexte politique. Et c'est pas expliqué. Il y a une intro de l'auteur qui nous dit ben, sa fierté de voir que son roman est traduit en français, mais il n'est pas replacé dans un contexte par l'éditeur lui-même dans un intro ou une extro. Bon, donc ça reste toujours en fond.
D'ailleurs, je fais un petit survol rapide. Il y a très peu d'entrevues.
C'est ça, mais c'est pas un auteur justement qui parle français. Donc, peu de couverture dans l'actualité, oui. Et je lisais ce roman-là ben, au moment où les Jeux olympiques de Pékin se préparaient, où on parlait beaucoup des Ouïghours, par exemple, qui, eux aussi, en Chine, ben il y a des... sont un peu... on tente de les assimiler, de dissimuler, de diluer cette fierté nationale-là, de la même façon qu'on a fait un peu pour le Tibet en Chine. Au Tibet, maintenant, il y a énormément d'immigration chinoise. La capitale, maintenant, est à moitié chinoise, à moitié tibétaine. On parle le chinois beaucoup. Le tibétain, donc c'est une langue... ethnique, régionale, donc on peut pas faire de hautes études nécessairement tibétain, il faut se tourner vers le chinois. Donc, il y a ce rapport-là. Mais le livre comme tel, donc c'est ça, donc au-delà de ce contexte politique, de ce contexte historique, c'est ça, je me posais beaucoup de questions et là, je lis le livre, qui est un roman qui laisse un peu sur notre faim, je vous dirais. Un roman en deux étapes. Donc, la première partie qui prend vraiment à peu près les deux tiers, trois quarts du livre, on est dans l'enfance de l'auteur qui nous raconte sa vie avec ses enfants dans un tout petit village, du Tibet, dans une région à l'est du Tibet. Et donc, va nous raconter son enfance. Et là, c'est vraiment comme un roman très classique, je dirais, là, de ces littératures qui rayonnent peu et qui se construisent. Donc, un roman un peu... il y a des petites maladresses, il y a des petits côtés malhabiles.
C'est un premier roman, d'ailleurs.
C'est ça, et on ne sait pas si c'est la traduction, ouais. On ne sait pas si c'est l'auteur. Il y a certaines figures de style, par exemple... Il répète beaucoup la même chose, souvent, dans une page. Il va répéter les mêmes tournures de façon identique. Et on cherche à voir quel effet de style ça ajoute au juste. Moi, ça m'agaçait un peu. Et cette histoire-là, c'est vraiment... Le premier bout, là, c'est vraiment que des anecdotes, des petits souvenirs de ce qui se passait dans ce village-là. Un village d'éleveurs, de moutons, où il y a beaucoup de pâturage, où il n'y a pas d'agriculture vraiment. Et c'est ça, on a l'impression que ce village-là, l'action aurait pu se passer en 1650. Mmh. C'est fou, c'est vraiment...
Et ça se passe à l'époque contemporaine.
Mais c'est ça, écoute, moi je lisais au début, j'ai dit ça se passe en 1950, en 1960. C'est quand le Tibet est collé... Et repris par la Chine, puis que les communistes arrivent, puis qu'on décide qu'on va construire une école, puis qu'on va apprendre à nos enfants à lire, puis à un moment donné, par exemple, l'électricité arrive dans le village, puis c'est l'événement d'avoir une ampoule dans la cuisine. Puis j'ai dit, bon, on est en 1950. Non, l'auteur, il est né en 1978. Nous raconte ces anecdotes de quand il est au début de l'adolescence.
Donc on parle de 25 à 30 ans.
On est vraiment dans les années 90, là. Donc, on a l'impression de lire quelque chose qui date du Moyen-Âge. Et c'est ça, c'est la présence des religieux, du grand-père qui raconte ses vieilles anecdotes historiques basées sur des légendes tibétaines. Et on a vraiment l'impression d'être au Moyen-Âge. Les enfants vont pas à l'école avant le tiers du livre. Ça élève des moutons, personne travaille, ils ont une bicyclette à un moment donné, c'est un événement épouvantable dans le village, tellement que personne se sent... ils veulent pas passer la bicyclette parce que C'est trop un objet de valeur. Il y a une radio qui arrive à un moment donné. Mon Dieu, une radio, c'est, on entend des voix, qu'est-ce qui se passe, d'où elles sortent, comment ça fonctionne, cette boîte mystérieuse.
Donc on sent vraiment une société.
C'est ça, on se sent vraiment comme si c'était un roman québécois de 1910-1920. Mais non, c'est dans les années 90. C'est fou. Et c'est là, dans la dernière partie, et c'est quand même un roman qui est une bonne brique. Là, on parle de 400 quelques pages, mais c'est dans la dernière partie vraiment qu'un peu là, ça décolle parce qu'on se retrouve, on reprend les protagonistes de la première section, les enfants sont devenus des adultes. Et là, c'est là que ça devient un peu plus intéressant, mais en même temps, on est laissé sur notre faim par rapport au contexte politique dont je vous parlais au début. Il y a, l'histoire est là, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qu'il faut qu'on devine. Donc, les enfants, il y en a un qui était moine, qui a défroqué, qui est allé vers la ville. Il y a une jeune fille qui, elle, est allée vers la capitale du Tibet. Il y a énormément de prostitution à Lhasa maintenant. Là. Ah, il y a des bordels de Tibétaines à la pocheté. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. C'est un problème endémique là-bas. Il y a peu de gens qui peuvent témoigner de ça à cause que la région est un peu fermée, mais il y a une énorme... Et elle se retrouve là-dedans.
Ah ouais, donc, c'est une réalité méconnue, effectivement.
Voilà. Et lui, le personnage principal, ben, est allé vers la Chine de l'Est, donc les grandes villes, est allé à l'université, mais est toujours comme en conflit avec ses racines, son histoire, qu'est-ce qu'il aurait dû être. Puis c'est ça, au début du roman, quand je vous dis qu'on a l'impression d'être au Moyen-Âge, il y a des mariages arrangés, les enfants devaient se marier entre eux à 11 ans, on leur annonçait ça, c'est ta future femme, et on a les oracles ont prévu ça, et on a la prophétie vous annoncer qu'elle est ça, qu'elle allait se passer. Et là, on sent l'espèce de... C'est là que ça devient intéressant, puis ça rapporte aussi, c'est comme notre littérature autochtone aussi en ce moment, là. Les traditions, ce que la tradition va vous dire, ce que la magie a dit, ce que les prédictions allaient être, puis on sent l'importance que ça a pour la spiritualité, mais en même temps, la vie les amène complètement ailleurs, et justement, on passe de... ce 1990 qui a l'air de 1850, et tout à coup, on les catapulte dans Lhasa, à la fin, beaucoup, la capitale du Tibet, dans une ville moderne, où il y a, c'est ça, le moine devient homme d'affaires, la jeune paysanne du début est prostituée, on cherche à s'enrichir, les valeurs, l'histoire, tout est complètement catapulté, mais c'est peu expliqué dans l'histoire.
C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a assez pour s'attacher? Parce que je sens quand même là, dans ta critique... peut-être des trous à remplir ou en tout cas une réserve. Là.
Ben, la première partie est excessivement longue par rapport à l'action qui s'y passe. Je vous dirais, j'ai eu un peu de misère à embarquer dans l'histoire. Et peut-être que j'en attendais plus, mais en même temps, c'est pas parce qu'un roman se passe au Tibet qu'il faut que ce soit folklorique et complètement dépaysant et qu'on...
Non, ben, au contraire, moi je, en tout cas, dans
tout
la partie...
Tu n'as pas obligé de sentir
dans
le
lait de... Dans ton contrat, je suis plus intéressé vers le Lhasa d'aujourd'hui.
Ben, c'est
dans,
ça.
Tu n'as
pas à sentir le yogourt de mouton caillé non plus. Là,
dans les plaines
ben,
de montagne.
C'est ça, mais c'est cette dernière partie qui est beaucoup plus intéressante où on nous amène le clash vraiment avec la première... où on voit de la façon que la société tibétaine évolue, où l'on voit un peu tous ces problèmes ethniques, historiques, ce respect des traditions qu'on cherche à aller chercher dans une vie moderne. Et c'est tout dans cette dernière partie-là qui est beaucoup plus intéressante. Mais ça reste une écriture un petit peu premier roman malhabile dans une littérature... Si ce roman-là n'était pas tibétain, probablement qu'on ne l'aurait pas traduit en français, probablement que ça n'aurait peut-être pas toute la visibilité que ça a, mais ça reste... C'est ça, pour le côté...
Il y a une aura de la différence, là.
C'est ça. Donc, il ne faut pas s'attendre à lire un roman extraordinaire, beaucoup pour sa forme littéraire et son récit, justement. Mais si la région vous intéresse, si vous voulez en découvrir autre chose, si vous en savez assez, justement, pour décoder un peu... le plus que le roman peut vous apporter, ben ça peut être une lecture intéressante. Ça reste des paysans quand même là, ces lectures, et ça fait du bien de lire des romans qui se passent dans des environnements complètement inconnus, qu'on connaît peu, qu'on maîtrise bien moins bien. Donc pour la culture générale là, ça reste intéressant.
Voilà.
Tous les romans chez Piquet, il y a ce côté exotique là. Puis là, on se demande, est-ce qu'on est des lecteurs difficiles ou c'est parce que c'est tellement des romans qui nous amènent dans des champs complètement autres que on en est tellement dépaysé que voilà.
Voilà. Ben merci en tout cas avec certaines réserves, mais quand même c'est important que ces livres-là existent pour une littérature différente aussi, nous sortir là, d'œuvres donc de régions méconnues et qui, il faut dire, ne compose pas un gros éventail de choix littéraires. Alors, merci beaucoup, Brian Saint-Louis. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on va en musique ou on...
Avais-tu quelque chose? Je te vois avec la tablette depuis tout à l'heure. Est-ce
oui, je, ben, je cherchais un peu une actualité. On va aller à une petite pause musicale et on va... Ah, mais...
Ben, tu peux aller avec toi. Je pense qu'avec ben, on est tous bien
en fait, je... Non.
Ah, tu n'en as pas? Ah, bon, voilà. On va aller en musique à ce moment-là.
Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission d'Épilogue. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à notre invité Patrick White. On le rappelle, vient de publier le livre sur le peintre royal britannique Henry Daniel qui a vécu au Québec notamment. Donc, une histoire passionnante. C'est aux presses de l'Université Laval. Aussi, Claudine Dufour nous parlait d'On meurt tous d'avoir vécu de Karine Wilder chez Stanké. Et Brian Saint-Louis, tu nous as parlé d'un roman tibétain.
En attendant la neige aux éditions Piquier.
Alors, merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Bonne lecture et bonne semaine sur les ondes de CKIA FM.
Le magazine littéraire Épilogue vous était présenté par la Librairie du Quartier. La Librairie du Quartier, au 1120 Avenue Cartier, au cœur de Québec.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
Que faites-vous les dimanches soirs? Faites comme beaucoup de gens qui nous suivent depuis 25 ans et écoutez Profil dès 20h. Découvrez toutes les nouveautés progressives en provenance d'ici et de partout dans le monde. Profil, la référence progressive à Québec. Le dimanche, 20h, à l'antenne de CKIA FM 88.3 Radio Urbaine.
Ah! Rojas Bazar.
Ici Alain Lalancette. Je vous invite au Jazz Bazar tous les dimanches de 17h à 20h sur les ondes de CKIA FM. Je vous offrirai alors un cocktail musical en jazz